Chapitre 5. Depuis le peu de jours qui avaient précédé celui-là, j'avais eu la révélation d'une fierté inconnue. Je la sentis se réveiller, et, poussé par un mouvement irrésistible, je voulus voir de quel air Léonie faisait la conversation au comptoir de mon père. Il tardait à monter, et je supposais avec raison que mon père l'avait retenu pour lui montrer, selon sa naïve habitude, les merveilles de son travail. Je descendis résolument à la boutique et j'y entrai en feignant quelque surprise d'y trouver Léonie. Cette boutique m'était interdite en tout temps par ma mère, dont la plus grande crainte était de me voir passer pour une marchande. Mais je m'échappais quelquefois pour aller embrasser mon pauvre père, qui n'avait pas de plus grande joie que de m'y recevoir. Lorsqu'il me vit entrer, il fit une exclamation de plaisir et dit à Léonie : « Tenez, monsieur le baron, je vous montrerai peu de choses, voici mon plus beau diamant. » La figure de Léonie trahit une émotion délicieuse. Il sourit à mon père avec attendrissement et à moi avec passion. Jamais un tel regard n'était tombé sur le mien. Je devins rouge comme le feu. Un sentiment de joie et de tendresse inconnue amena une larme au bord de ma paupière pendant que mon père m'embrassait au front. Nous restâmes quelques instants sans parler et Léonie, relevant la conversation, trouva le moyen de dire à mon père tout ce qui pouvait flatter son amour-propre d'artiste et de commerçant. Il parut prendre un extrême plaisir à lui faire expliquer par quel travail on tirait les pierres précieuses d'un caillou brut pour leur donner l'éclat et la transparence. Il dit lui-même à ce sujet des choses intéressantes et s'adressant à moi, il me donna quelques détails minéralogiques à m'apporter. Je fus confondu de l'esprit et de la grâce avec lesquels il savait relever et ennoblir notre condition à notre propre yeux. Il nous parla de travaux d'orfèvrerie qu'il avait eu l'occasion de voir dans ses voyages et nous vanta surtout les œuvres de son compatriote Cellini qu'il plaça près de Michel-Ange. Enfin, il attribua tant de mérite à la profession de mon père et donna tant d'éloges à son talent, que je me demandais presque si j'étais la fille d'un ouvrier laborieux ou d'un homme de génie. Mon père accepta cette dernière hypothèse, et charmé des manières du Vénitien, il le conduisit chez ma mère. Durant cette visite, Léonie eut tant d'esprit et parla surtout de choses d'une manière si supérieure que je restais fasciné en l'écoutant. Jamais je n'avais conçu l'idée d'un homme semblable. Ceux qu'on m'avait désignés comme les plus aimables étaient si insignifiants et si nuls auprès de celui-là que je croyais faire un rêve. J'étais trop ignorante pour apprécier tout ce que Léonie possédait de savoir et d'éloquence, mais je le comprenais instinctivement. J'étais dominé par son regard, enchaîné à ses récits, surprise et charmée à chaque nouvelle ressource qu'il déployait. Il est certain que Léonie est un homme doué de facultés extraordinaires. En peu de jours, il réussit à exciter dans la ville un engouement général. Vous savez qu'il a tous les talents, toutes les séductions. S'il assistait à un concert, après s'être fait un peu prier, il chantait ou jouait tous les instruments avec une supériorité marquée sur les musiciens. S'il consentait à passer une soirée d'intimité, il faisait des dessins charmants sur les albums des femmes. Il crayonnait en un instant des portraits pleins de grâce ou des caricatures pleines de verve. Il improvisait ou déclamait dans toutes les langues. Il savait toutes les danses de caractère de l'Europe Et il les dansait toutes avec une grâce enchanteresse. Il avait tout vu, tout retenu, tout jugé, tout compris. Il savait tout. Il lisait dans l'univers comme dans un livre de poche. Il jouait admirablement la tragédie et la comédie. Il organisait des troupes d'amateurs. Il était lui-même le chef d'orchestre, le premier sujet, le décorateur, le peintre et le machiniste. Il était à la tête de toutes les parties et de toutes les fêtes. On pouvait vraiment dire que le plaisir marchait sur ses traces et que, tout à son approche, changeait d'aspect et prenait une force nouvelle. On l'écoutait avec enthousiasme, on lui obéissait aveuglément. On croyait en lui comme en un prophète. Et s'il eût promis de ramener le printemps au milieu de l'hiver, on en aurait cru capable. Au bout d'un mois de son séjour à Bruxelles, le caractère des habitants avait réellement changé. Le plaisir réunissait toutes les classes, aplanissait toutes les susceptibilités hautaines, nivelait tous les rangs. Ce n'était tous les jours que cavalcade, feu d'artifice, spectacle, concert, mascarade. Léonie était grand et généreux. Les ouvriers auraient fait pour lui une émeute. Il semait les bienfaits à pleine main et trouvait de l'or et du temps pour tout. Ses fantaisies devenaient aussitôt celles de tout le monde. Toutes les femmes l'aimaient et les hommes étaient tellement subjugués par lui qu'ils ne songeaient point en être jaloux. Mais comment, au milieu d'un tel entraînement, aurais-je pu rester insensible à la gloire d'être recherché par l'homme qui fanatisait toute une province? Léonie nous accablait de soins et nous entourait d'hommages. Nous étions devenus, ma mère et moi, les femmes les plus à la mode de la ville. Nous marchions à ses côtés, à la tête de tous les divertissements. Il nous aidait à déployer un luxe effréné. Il dessinait nos toilettes et composait nos costumes de caractère, car il s'attendait à tout et aurait fait lui-même au besoin nos robes et nos turbans. Alors ce fut par de tels moyens qu'il accapara l'affection de la famille. Ma tante fut la plus difficile à conquérir. Longtemps elle résista et nous affligea de ses tristes observations. Léonie, disait-elle, était un homme sans conduite, un joueur effréné. Il gagnait, il perdait chaque soir la fortune de 20 familles. Il dévorerait la nôtre en une nuit. Mais Léonie entreprit de l'adoucir, et il y réussit en s'emparant de sa vanité, ce levier, oh, qu'il manœuvrait si puissamment, en ayant l'air de l'effleurer. Et bientôt, il n'y eut plus d'obstacle. Ma main lui fut promise avec une dot d'un 500 000. Ma tante fit observer encore qu'il fallait avoir des renseignements plus certains sur la fortune et la condition de cet étranger. Léonie sourit et promit de fournir ses titres de noblesse et de propriété en moins de 20 jours. Il traita fort légèrement la rédaction du contrat, qui fut dressé de la manière la plus libérale et la plus confiante envers lui. Il paraissait à peine savoir ce que je lui apportais. Monsieur Delpech, et sur la parole de celui-ci, tous les nouveaux amis de Léonie assuraient qu'il avait 4 fois plus de fortune que nous et qu'en m'épousant, il faisait un mariage d'amour. Je me laissais facilement persuader. Je n'avais jamais été trompé et je me représentais les faussaires et les filous que sous les haillons de la misère et les dehors de l'ignominie. Un sentiment pénible oppressa la poitrine de Juliette. Elle s'arrêta, et me regarda d'un air égaré. « Pauvre enfant, lui dis-je, Dieu aurait dû te protéger. « Oh, me dit-elle, en fronçant légèrement son sourcil d'ébène, j'ai prononcé des mots affreux, que Dieu me les pardonne. Je n'ai pas de haine dans le cœur et je n'accuse point Léonie d'être un scélérat. Non, non, car je ne veux pas rougir de l'avoir aimée. » C'est un malheureux qu'il faut plaindre. Si vous saviez, mais je vous dirai tout. Continue ton histoire, lui dis-je. Léonie est assez coupable. Ton intention n'est pas de l'accuser plus qu'il ne le mérite. Juliette reprit son récit. Le fait est qu'il m'aimait. Il m'aimait pour moi-même. La suite l'a bien prouvé. Non, ne secouez pas la tête, Bustamante. Léonie est un corps robuste, animé d'une âme immense. Toutes les vertus et tous les vices, toutes les passions coupables et saintes y trouvent place en même temps. Personne n'a jamais voulu le juger impartialement. Il avait bien raison de le dire. Moi seul l'ai connu et lui ai rendu justice. Le langage qu'il me parlait était si nouveau à mon oreille que j'en étais enivré. Peut-être l'ignorance absolue où j'avais vécu de tout ce qui touchait aux sentiments me faisait-elle paraître ce langage plus délicieux et plus extraordinaire qu'il lui semblait à une fille plus expérimentée. Mais je crois, et d'autres femmes le croient aussi, que nul homme sur la terre n'a ressenti et exprimé l'amour comme Léonie. Supérieur aux autres hommes dans le mal et dans le bien, il parlait une autre langue, il avait d'autres regards, il avait aussi un autre cœur. J'ai entendu dire à une dame italienne qu'un bouquet dans la main de Léonie avait plus de parfum que dans celle d'un autre. Et il en était ainsi de tout. Il donnait du lustre aux choses les plus simples et rajeunissait les moins neuves. Il y avait un prestige autour de lui. Je ne pouvais ni le désirais m'y soustraire. Je me mis à l'aimer de toutes mes forces. Et dans ce moment, je me sentis grandir à mes propres yeux. Que ce fût l'ouvrage de Dieu, celui de Léonie ou celui de l'amour, une âme forte se développa et s'épanouit dans mon faible corps. Chaque jour, je sentis un monde de pensées nouvelles se révéler à moi. Un mot de Léonie faisait éclore en moi plus de sentiments que les frivoles discours entendus dans toute ma vie. Il voyait ce progrès. Il en était heureux et fier. Il voulut le hâter et m'apporta des livres. Ma mère en regarda la couverture dorée, le vélin et les gravures. Elle vit à peine le titre des ouvrages qui allaient bouleverser ma tête et mon cœur. C'étaient de beaux et chastes livres, presque tous écrits par des femmes, sur des histoires de femmes. Valérie, Eugène de Rotelin, Mademoiselle de Clermont, Delphine. Ces récits touchants et passionnés, ces aperçus d'un monde idéal pour moi élevèrent mon âme, mais ils la dévorèrent. Oh, je devins romanesque, caractère le plus infortuné qu'une femme puisse avoir. Chapitre 6. 3 mois avaient suffi pour cette métamorphose. J'étais à la veille d'épouser Léonie. De tous les papiers qu'il avait promis de fournir, son acte de naissance et ses lettres de noblesse étaient seuls arrivés. Quant aux preuves de sa fortune, il les avait demandées à un autre homme de loi et elles n'arrivaient pas. Il témoignait une douleur et une colère extrêmes de ce retard qui faisait toujours ajourner notre union. Un matin, il entra chez nous d'un air désespéré. Il nous montra une lettre non timbrée qu'il venait de recevoir, disait-il, par une occasion particulière. Cette lettre lui annonçait que son chargé d'affaires était mort, que son successeur, ayant trouvé ses papiers en désordre, était forcé de faire un grand travail pour les reconnaître, et qu'il demandait encore une ou deux semaines avant de pouvoir fournir à sa seigneurie les pièces qu'elle réclamait. Léonie était furieux de ce contretemps. Il mourrait d'impatience et de chagrin, disait-il, avant la fin de cette horrible quinzaine. Il se laissa tomber sur un fauteuil en fondant en larmes. Non, non, ce n'étaient pas des larmes feintes. Ne souriez pas, Dona Léo. Je lui tendis la main pour le consoler. Je la sentis baignée de ses pleurs et frappée aussitôt d'une commotion sympathique, je me mis à sangloter. Ma pauvre mère n'y put tenir, elle courut en pleurant chercher mon père à sa boutique. C'est une tyrannie odieuse, lui dit-elle en l'entraînant près de nous. Voyez ces deux malheureux enfants. Comment pouvez-vous refuser de faire leur bonheur quand vous êtes témoin de ce qu'ils souffrent? Voulez-vous tuer votre fille par respect pour une vaine formalité? Ces papiers n'arriveront-ils pas aussi bien, ne seront-ils pas aussi satisfaisants après 8 jours de mariage? Que craignez-vous? Prenez-vous notre chère Léonie pour un imposteur? Ne comprenez-vous pas que votre insistance pour avoir les preuves de sa fortune est injurieuse pour lui et cruelle pour Juliette? Mon père, tout étourdi de ses reproches, et surtout de mes pleurs, jura qu'il n'avait jamais songé à tant d'exigences et qu'il ferait tout ce que je voudrais. Il m'embrassa 1000 fois et me tint le langage qu'on tient à un enfant de 6 ans lorsqu'on cède à ses fantaisies pour se débarrasser de ses cris. Ma tante arriva et parla moins tendrement. Elle me fit même des reproches qui me blessèrent. Une juste personne, chaste et bien élevée, disait-elle, ne devait pas montrer tant d'impatience d'appartenir à un homme. On voit bien, lui dit ma mère, tout à fait piquée, que vous n'avez jamais pu appartenir à aucun. Mon père ne pouvait souffrir qu'on manquât d'égard envers sa sœur. Il pencha de son côté et fit observer que notre désespoir était un enfantillage et que 8 jours seraient bientôt passés. J'étais mortellement offensé de l'impatience qu'on me supposait et j'essayais de retenir mes larmes. Mais celle de Léonie exerçait sur moi une puissance magnétique et je ne pouvais pas m'arrêter. Alors il se leva, les yeux tout humides, les joues animées, et avec un sourire d'espérance et de tendresse, il courut vers ma tante. Il prit ses mains dans une des siennes, celle de mon père dans l'autre, et se jeta à genoux en les suppliant de ne plus s'opposer à son bonheur. Ses manières, son accent, son visage avaient un pouvoir irrésistible. C'était d'ailleurs la première fois que ma pauvre tante voyait un homme à ses pieds. Toutes les résistances furent vaincues. Les bans étaient publiés, toutes les formalités préparatoires étaient remplies. Notre mariage fut fixé à la semaine suivante, sans aucun égard à l'arrivée des papiers. Le mardi gras tombait le lendemain. Monsieur Delpech donnait une fête magnifique. Léonie nous avait prié de nous habiller en femmes turques. Il nous avait fait une aquarelle charmante que nos couturières avaient copiée avec beaucoup d'exactitude. Le velours, le satin brodé, le cachemire ne furent pas épargnés. Mais ce fut la quantité et la beauté des pierreries qui nous assurèrent un triomphe incontestable sur toutes les toilettes du bal. Presque tout le fonds de boutique de mon père y passa. Les rubis, les émeraudes, les opales ruisselaient sur nous. Nous avions des réseaux et des aigrettes de brillants, des bouquets admirablement montés en pierres de toutes couleurs. Mon corsage et jusqu'à mes souliers étaient brodés en perles fines. Une torsade de ces perles d'une beauté extraordinaire me servait de ceinture et tombait jusqu'à mes genoux. Nous avions de grandes pipes et des poignards couverts de saphir et de brillants. Mon costume entier valait au moins 1 million. Léonie parut entre nous deux avec un costume turc magnifique. Il était si beau et si majestueux sous cet habit que l'on montait sur les banquettes pour nous voir passer. Mon cœur battait avec violence. J'éprouvais un orgueil qui tenait du délire. Ma parure, comme vous pensez, était la moindre chose dont je fusse occupé. La beauté de Léonie, son éclat, sa supériorité sur tous, l'espèce de culte qu'on lui rendait, et tout cela à moi, tout cela à mes pieds. Oh, c'était de quoi enivrer une tête moins jeune que la mienne. Ce fut le dernier jour de ma splendeur. Par combien de misère et d'abjection n'ai-je pas payé ces 20 triomphes? Ma tante était habillée en juive et nous suivait portant des éventails et des boîtes de parfums. Léonie, qui voulait conquérir son amitié, avait composé son costume avec tant d'art qu'il avait presque poétisé le caractère de sa figure grave et meurtrie. Elle était enivrée aussi, la pauvre Agathe. Hélas, qu'est-ce que la raison des femmes? Nous étions là depuis 2 ou 3 heures. Ma mère dansait et ma tante bavardait avec les femmes surannées qui composent ce qu'on appelle en France la tapisserie d'un bal. Léonie était assise près de moi. Elle me parlait à demi-voix avec une passion dont chaque mot allumait une étincelle dans mon sang. Tout à coup, la parole expira sur ses lèvres. Il devint pâle comme la mort et sembla frappé de l'apparition d'un spectre. Je suivis la direction de son regard effaré et je vis à quelques pas de nous une personne dont l'aspect me fut désagréable à moi-même. C'était un jeune homme nommé Henriette qui m'avait demandé en mariage l'année précédente. Quoiqu'il fût riche et d'une famille honnête, ma mère ne l'avait pas trouvé digne de moi et l'avait éloigné en alléguant mon extrême jeunesse. Mais au commencement de l'année suivante, il avait renouvelé sa demande avec instance, et le bruit avait couru dans la ville qu'il était éperdument amoureux de moi. Je n'avais pas daigné m'en apercevoir, et ma mère, qui le trouvait trop simple et trop bourgeois, s'était débarrassée de ses poursuites un peu brusquement. Il en avait témoigné plus de chagrin que de dépit, et il était parti immédiatement pour Paris. Depuis ce temps, ma tante et mes jeunes amis m'avaient fait quelques reproches de mon indifférence envers lui. C'était, disait-elle, un excellent jeune homme, d'une instruction solide et d'un caractère noble. Ces reproches m'avaient causé de l'ennui. Son apparition inattendue au milieu du bonheur que je goûtais auprès de Léonie me fut déplaisante et me fit l'effet d'un reproche nouveau. Je détournai la tête et feignit de ne l'avoir pas vu. Mais le singulier regard qu'il lança à Léonie ne put m'échapper. Léonie saisit vivement mon bras et m'engagea à venir prendre une glace dans la salle voisine. Il ajouta que la chaleur l'incommodait et lui donnait mal aux nerfs. Je le crus, et je pensais que le regard d'Henriette n'était que l'expression de la jalousie. Nous passâmes dans la galerie, il y avait peu de monde. J'y fus quelque temps appuyé sur le bras de Léonie. Il était agité, préoccupé. J'en montrai de l'inquiétude et il me répondit oh, que cela n'en valait pas la peine, qu'il était seulement un peu souffrant. Il commençait à se remettre lorsque je m'aperçus qu'Henriette nous suivait. Je ne pus m'empêcher d'en témoigner mon impatience. En vérité, cet homme nous suit comme un remords, dis-je tout bas à Léonie. Est-ce bien un homme? Je le prendrais presque pour une âme en peine qui revient de l'autre monde. Quel homme? Répondit Léonie en tressaillant. Comment l'a appelez-vous? Où est-il? Que nous veut-il? Est-ce que vous le connaissez? Je lui appris en peu de mots ce qui était arrivé et le priai de n'avoir pas l'air de remarquer le ridicule manège d'Henriette. Mais Léonie ne me répondit pas. Seulement je sentis sa main qui tenait la mienne devenir froide comme la mort. Un tremblement convulsif passa dans tout son corps et je crus qu'il allait s'évanouir. Mais tout cela fut l'affaire d'un instant. Oh, j'ai les nerfs horriblement malades, dit-il. Oh, je crois que je vais être forcé d'aller me coucher. La tête me brûle, oh, ce turban pèse 100 livres. Oh, mon Dieu, lui dis-je, si vous partez déjà, cette nuit va me sembler éternelle et cette fête insupportable. Essayez de passer dans une pièce plus retirée, et de quitter votre turban pour quelques instants. Nous demanderons quelques gouttes d'éther pour calmer vos nerfs. Oui, oui, vous avez raison, ma bonne, ma chère Juliette, mon ange. Il y a au bout de la galerie un boudoir où probablement nous serons seuls. Un instant de repos me guérira. En parlant ainsi, il m'entraîna vers le boudoir avec empressement. Il semblait fuir plutôt que marcher. J'entendis des pas qui venaient sur les nôtres. Je me retournai et je vis Henriette qui se rapprochait de plus en plus et qui avait l'air de nous poursuivre. Je crus qu'il était devenu fou. La terreur que Léonie ne pouvait plus dissimuler acheva de brouiller toutes mes idées. Une peur superstitieuse s'empara de moi, mon sang se glaça comme dans le cauchemar, et il me fut impossible de faire un pas de plus. En ce moment, Henriette nous atteignit et posa une main, qui me sembla métallique, sur l'épaule de Léonie. Léonie resta comme frappée de la foudre, et lui fit un signe de tête affirmatif, comme s'il eût deviné une question ou une injonction dans ce silence effrayant. Alors Henriette s'éloigna, et je sentis mes pieds se déclouer du parquet. J'eus la force de suivre Léonie dans le boudoir, et je tombai sur l'ottomane aussi pâle et aussi consterné que lui. Chapitre 7. Il resta quelques instants ainsi. Puis tout à coup, rassemblant ses forces, il se jeta à mes pieds. « Juliette, me dit-il, je suis perdu si tu ne m'aimes pas jusqu'au délire. »« Ô ciel, mais qu'est-ce que cela signifie ? » m'écriai-je avec égarement en jetant mes bras autour de son cou. « Et tu ne m'aimes pas ainsi, continua-t-il avec angoisse. Je suis perdu, n'est-ce pas? Mais je t'aime de toutes les forces de mon âme, m'écriai-je en pleurant. Que faut-il faire pour te sauver? Oh non, tu n'y consentirais pas, reprit-il avec abattement. Je suis le plus malheureux des hommes. Tu es la seule femme que j'aie jamais aimée, Juliette. Et au moment de te posséder, mon âme, ma vie, je te perds à jamais. Il faudra que je meure. Mon Dieu, m'écriai-je. Ne pouvez-vous pas me parler? Ne pouvez-vous dire ce que vous attendez de moi? Non, je ne puis parler, répondit-il. Un affreux secret, un mystère épouvantable pèse sur ma vie entière, et je ne pourrai jamais te le révéler. Pour m'aimer, pour me suivre, pour me consoler, il faudrait être plus qu'une femme, plus qu'un ange peut-être. Mais pour t'aimer, pour te suivre, lui dis-je, mais dans quelques jours ne serai-je pas ta femme? Tu n'auras qu'un mot à dire, et quelle que soit ma douleur et celle de mes parents, je te suivrai au bout du monde si tu le veux. Est-ce vrai, ô ma Juliette? S'écria-t-il avec un transport de joie. Tu me suivras? Tu quitteras tout pour moi? Oh, eh bien, si tu m'aimes à ce point, je suis sauvé. Partons, partons tout de suite. Quoi, mais y pensez-vous, Léonie? Sommes-nous mariés? Lui dis-je. Nous ne pouvons pas nous marier, répondit-il d'une voix forte et brève. Je restai atterré. Mais si tu ne veux pas m'aimer, si tu ne veux pas fuir avec moi, continua-t-il, je n'ai plus qu'un parti à prendre, c'est de me tuer. Il prononça ces mots d'un ton si résolu que je frissonnais de la tête aux pieds. Mais que nous arrive-t-il donc, lui dis-je, est-ce un rêve? Qui peut nous empêcher de nous marier quand tout est décidé, quand vous avez la parole de mon père? Un mot de l'homme qui est amoureux de vous et qui veut vous empêcher d'être à moi. Mais je le hais, je le méprise, m'écriai-je. Où est-il? Oh, je veux lui faire sentir la honte d'une si lâche poursuite et d'une si odieuse vengeance. Mais que peut-il contre toi, Léonie? N'es-tu pas tellement au-dessus de ses attaques qu'un mot de toi ne le réduise en poussière? Ta vertu et ta force ne sont-elles pas inébranlables et pures comme l'or? Oh, ciel, je devine, tu es ruiné. Les papiers que tu attends n'apporteront que de mauvaises nouvelles. Henriette le sait, et il te menace d'avertir mes parents. Mais sa conduite est infâme. Mais ne crains rien, mes parents sont bons, ils m'adorent. Je me jetterai à leurs pieds. Je les menacerai de me faire religieuse. Tu les supplieras encore comme hier, et tu les vaincras, sois-en sûr. Ne suis-je pas assez riche pour deux? Mon père ne voudra pas me condamner à mourir de douleur. Ma mère intercédera pour moi. À nous trois, nous aurons plus de force que ma tante pour le convaincre. Ben, ne t'afflige plus, Léonie. Cela ne peut pas nous séparer, c'est impossible. Si mes parents étaient sordides à ce point, c'est alors que je fuirais avec toi. Mais fuyons donc tout de suite, me dit Léonie d'un air sombre, car ils seront inflexibles. Il y a autre chose encore que ma ruine, quelque chose d'infernal que je ne puis te dire. Es-tu bonne, es-tu généreuse? Es-tu la femme que j'ai rêvée, que j'ai cru trouver en toi? Es-tu capable d'héroïsme? Comprends-tu les grandes choses, les immenses dévouements? Voyons, voyons, Juliette, Es-tu une femme aimable et jolie que je vais quitter avec regret? Ou es-tu un ange que Dieu m'a donné pour me sauver du désespoir? Sens-tu ce qu'il y a de beau, de sublime, à se sacrifier pour ce qu'on aime? Ton âme n'est-elle pas émue à l'idée de tenir dans tes mains la vie et la destinée d'un homme et de t'y consacrer tout entière? Ah, que ne pouvons-nous changer de rôle? Que ne suis-je à ta place? Avec quel bonheur, avec quel transport, je t'immolerai toutes les affections, tous les devoirs. Assez, Léonie, lui répondis-je, vous m'égarez par vos discours. Grâce, grâce pour ma pauvre mère, pour mon pauvre père, pour mon honneur. Vous voulez me perdre? Ah, tu penses à tout cela, s'écria-t-il, et pas à moi. Tu poses la douleur de tes parents et tu ne daignes pas mettre la mienne dans la balance. Mais tu ne m'aimes pas. Je cachai mon visage dans mes mains. J'invoquai Dieu, j'écoutais les sanglots de Léonie. Je crus que j'allais devenir folle. Eh bien, tu le veux, lui dis-je, et tu le peux. Parle, dis-moi tout ce que tu voudras, il faudra bien que je t'obéisse. N'as-tu pas ma volonté et mon âme à ta disposition? Nous avons peu d'instants à perdre, répondit Léonie. Il faut que dans une heure nous soyons partis ou la fuite deviendra impossible. Il y a un œil de vautour qui plane sur nous. Mais si tu le veux, nous saurons le tromper. Le veux-tu? Le veux-tu? Il me serra dans ses bras avec délire. Des cris de douleur s'échappaient de sa poitrine. Je répondis oui, sans savoir ce que je disais. « Eh bien, retourne vite au bal, me dit-il, ne montre pas d'agitation. Si on te questionne, dis que tu as été un peu indisposé, mais ne te laisse pas emmener. Danse s'il faut. Surtout si Henriette te parle, sois prudente, ne l'irrite pas. Songe que pendant une heure encore, mon sort est dans ses mains. Dans une heure, je reviendrai sous un domino. J'aurai ce bout de ruban au capuchon. Tu le reconnaîtras, n'est-ce pas? Tu me suivras et surtout, tu seras calme, impassible. Il le faut, songe à tout cela. T'en sens-tu la force? Je me levai et je pressai ma poitrine brisée dans mes deux mains. J'avais la gorge en feu, mes joues étaient brûlées par la fièvre, j'étais comme ivre. « Allons, allons !» me dit-il. Il me poussa dans le bal et disparut. Ma mère me cherchait. Je vis de loin son anxiété et pour éviter ses questions, j'acceptai précipitamment une invitation à danser. Je dansais, et je ne sais comment je ne tombais pas morte à la fin de la contredanse, tant j'avais fait d'efforts sur moi-même. Quand je revins à ma place, ma mère était déjà partie pour la valse. Elle m'avait vu danser, elle était tranquille. Elle recommençait à s'amuser pour son compte. Ma tante, au lieu de me questionner sur mon absence, me gronda. « Oh, j'aimais mieux cela !» Et je n'avais pas besoin de répondre et de mentir. Une de mes amies me demanda d'un air effrayé ce que j'avais et pourquoi ma figure était si bouleversée. Je répondis que je venais d'avoir un violent accès de toux. « Il faut te reposer, me dit-elle, et ne plus danser. » Mais j'étais décidé à éviter le regard de ma mère. Je craignais son inquiétude, sa tendresse et mes remords. Je vis son mouchoir qu'elle avait laissé sur la banquette. Je le pris. Je l'approchai de mon visage et m'en couvrant la bouche, je le dévorai de baisers convulsifs. Ma compagne crut que je toussais encore. Je feignis de tousser, en effet. Je le savais, et comment remplir cette heure fatale dont la moitié était à peine écoulée? Ma tante remarqua que j'étais fort enrhumé et dit qu'elle allait engager ma mère à se retirer. Je fus épouvanté de cette menace et j'acceptai vite une nouvelle invitation. Quand je fus au milieu des danseurs, je m'aperçus que j'avais accepté une valse. Comme presque toutes les jeunes personnes, je ne valsais jamais. Mais en reconnaissant dans celui qui déjà me tenait dans ses bras la sinistre figure de l'Henriette, la frayeur m'empêcha de refuser. Il m'entraîna, et ce mouvement rapide acheva de troubler mon cerveau. Je me demandais si tout ce qui se passait autour de moi n'était pas une vision, si je n'étais pas plutôt couché dans un lit avec la fièvre que lancé comme une folle au milieu d'une valse avec un être qui me faisait horreur. Et puis je me rappelais que Léonie allait venir me chercher. Je regardais ma mère qui, légère et joyeuse, semblait voler au travers du cercle des valseurs. Moi, je me dis que cela était impossible, que je ne pouvais pas quitter ma mère ainsi. Je m'aperçus que Henriette me pressait dans ses bras et que ses yeux dévoraient mon visage incliné vers le sien. Oh, je faillis crier et m'enfuir. Je me souvins des paroles de Léonie. Mon sort est encore dans tes mains pendant 1 heure. Je me résignai. Nous nous arrêtâmes un instant, il me parla. Je l'entendis pas, je répondis en souriant avec égarement. Alors, je sentis le frôlement d'une étoffe contre mes bras et mes épaules nues. Je n'eus pas besoin de me retourner, je reconnus la respiration à peine saisissable de Léonie. Je demandai à revenir à ma place. Au bout d'un instant, Léonie, en domino noir, va m'offrir la main. Je le suivis. Nous traversâmes la foule. Nous échappâmes par je ne sais quel miracle au regard jaloux d'Henriette et à celui de ma mère qui me cherchait de nouveau. L'audace avec laquelle je passais au milieu de 500 témoins pour m'enfuir avec Léonie empêcha qu'aucun s'en aperçût. Nous traversâmes la cohue de l'antichambre. Quelques personnes qui prenaient leur manteau nous reconnurent et s'étonnèrent de me voir descendre l'escalier sans ma mère. Mais ces personnes s'en allaient aussi et ne devaient point colporter leurs remarques dans le bal. Arrivée dans la cour, Léonie se précipita en m'entraînant vers une porte latérale par laquelle ne passaient point les voitures. Nous fîmes en courant quelques pas dans une rue sombre, puis une chaise de poste s'ouvrit. Léonie m'y porta, m'enveloppa dans un vaste manteau fourré, m'enfonça un bonnet de voyage sur la tête, et en un clin d'œil, la maison illuminée de Monsieur Delpech, la rue et la ville disparurent derrière nous. Nous courûmes 24 heures sans faire un mouvement pour sortir de la voiture. À chaque relais, Léonie soulevait un peu le châssis, passait le bras en dehors, jetait au postillon le quadruple de leur salaire, retirait précipitamment son bras et refermait la jalousie. Je ne pensais guère à me plaindre de la fatigue ou de la faim. J'avais les dents serrées, les nerfs contractés. Je ne pouvais verser une larme ni dire un mot. Léonie semblait plus occupée de la crainte d'être poursuivie que de ma souffrance et de ma douleur. Nous nous arrêtâmes auprès d'un château, à peu de distance de la route. Nous sonnâmes à la porte d'un jardin. Un domestique vint après s'être fait longtemps attendre. Il était 2 heures du matin. Il arriva enfin en grondant et approcha sa lanterne du visage de Léonie. À peine l'eut-il reconnu qu'il se confondit en excuses et nous conduisit à l'habitation. Elle me sembla déserte et mal tenue. Néanmoins, on m'offrit une chambre assez convenable. En un instant, on alluma du feu, on me prépara un lit et une femme vint pour me déshabiller. Je tombai dans une sorte d'imbécillité. La chaleur du foyer me ranima un peu et je m'aperçus que j'étais en robe de nuit et les cheveux épars auprès de Léonie. Mais il n'y faisait pas attention. Il était occupé à serrer dans un coffre le riche costume, les perles et les diamants dont nous étions encore couverts un instant auparavant. Ces joyaux dont Léonie était parée appartenaient pour la plupart à mon père. Ma mère, voulant que la richesse de son costume ne fût pas au-dessous d'une autre, les avait tirés de la boutique et les lui avait prêtés sans rien dire. Quand je vis toutes ces richesses entassées dans un coffre, j'eus une honte mortelle de l'espèce de vol que nous avions commis, et je remerciai Léonie de ce qu'il pensait à les renvoyer à mon père. Mais je sais ce qu'il me répondit. Il me dit ensuite que j'avais 4 heures à dormir, qu'il me suppliait d'en profiter sans inquiétude et sans douleur. Il baisa mes pieds nus et se retira. Je n'eus jamais le courage d'aller jusqu'à mon lit. Je m'endormis auprès du feu, sur mon fauteuil. À 6 heures du matin, on vint m'éveiller. On m'apporta du chocolat et des habits d'homme. Je déjeunai, je m'habillai avec résignation. Léonie vint me chercher. Et nous quittâmes avant le jour cette demeure mystérieuse dont je n'ai jamais connu ni le nom ni la situation exacte, ni le propriétaire, non plus que beaucoup d'autres gîtes, tantôt riches, tantôt misérables, qui dans le cours de nos voyages s'ouvrirent pour nous à toute heure et en tout pays au seul nom de Léonie. À mesure que nous avancions, Léonie reprenait la sérénité de ses manières et la tendresse de son langage. Soumise et enchaînée à lui par une passion aveugle, c'était un instrument dont il faisait vibrer toutes les cordes à son gré. S'il était rêveur, je devenais mélancolique. S'il était gai, j'oubliais tous mes chagrins et tous mes remords pour sourire à ses plaisanteries. S'il était passionné, j'oubliais la fatigue de mon cerveau et l'épuisement des larmes. Je retrouvais de la force pour l'aimer et pour le lui dire. Nous arrivâmes à Genève où nous ne restâmes que le temps nécessaire pour nous reposer. Nous nous enfonçâmes bientôt dans l'intérieur de la Suisse et là nous perdîmes toute inquiétude d'être poursuivis et découverts. Depuis notre départ, Léonie n'aspirait qu'à gagner avec moi une retraite agreste et paisible, et à vivre d'amour et de poésie dans un éternel tête-à-tête. Ce rêve délicieux se réalisa. Nous trouvâmes, dans une des vallées du lac Majeur, un chalet des plus pittoresques, dans une situation ravissante. Pour très peu d'argent, nous le fîmes arranger commodément à l'intérieur, et nous le prîmes à loyer au commencement d'avril. Nous y passâmes 6 mois d'un bonheur enivrant, dont je remercierai Dieu toute ma vie, quoiqu'il me les ait fait payer bien cher. Nous étions absolument seuls et loin de toute relation avec le monde. Nous étions servis par 2 jeunes mariés, gros et réjouis, qui augmentaient notre contentement par le spectacle de celui qu'ils goûtaient. La femme faisait le ménage et la cuisine. Le mari menait au pâturage une vache et 2 chèvres qui composaient tout notre troupeau. Il tirait le lait et faisait le fromage. Nous nous levions de bonne heure et, lorsque le temps était beau, nous déjeunions à quelques pas de la maison, dans un joli verger dont les arbres, abandonnés à la direction de la nature, poussaient en tous sens des branches touffues, moins riches en fruits qu'en fleurs et en feuillages. Nous allions ensuite nous promener dans la vallée où nous gravissions les montagnes. Nous prîmes peu à peu l'habitude de faire de longues courses et chaque jour nous allions à la découverte de quelques sites nouveaux. Les pays de montagne ont cela de délicieux qu'on peut les explorer longtemps avant d'en connaître tous les secrets et toutes les beautés. Quand nous entreprenions nos plus grandes excursions, Johan, notre gai majordome, nous suivait avec un panier de vivres, et rien n'était plus charmant que nos festins sur l'herbe. Léonie n'était difficile que sur le choix de ce qu'il appelait le réfectoire. Enfin, quand nous avions trouvé à mi-côte d'une gorge un petit plateau paré d'une herbe fraîche, abrité contre le vent ou le soleil avec un joli point de vue, un ruisseau tout auprès embaumé de plantes aromatiques, il arrangeait lui-même le repas sur un linge blanc étendu à terre. Il envoyait Johan cueillir des fraises et plonger le vin dans l'eau froide du torrent. Il allumait un réchaud à l'esprit de vin et faisait cuire les œufs frais. Par le même procédé, après la viande froide et les fruits, je lui préparais d'excellents cafés. De cette manière, nous avions un peu des jouissances de la civilisation au milieu des beautés romantiques du désert. Quand le temps était mauvais, oh, ce qui arriva souvent au commencement du printemps, nous allumions un grand feu pour préserver de l'humidité notre habitation de sapins. Nous nous entourions de paravents que Léonie avait montés, cloués et peints lui-même. Nous buvions du thé, et tandis qu'il fumait dans une longue pipe turque, je lui faisais la lecture. Nous appelions ça nos journées flamandes. Moins animées que les autres, elles étaient peut-être plus douces encore. Léonie avait un talent admirable pour arranger la vie, pour la rendre agréable et facile. Dès le matin, il occupait l'activité de son esprit à faire le plan de la journée et à en ordonner les heures. Et quand ce plan était fait, il venait me le soumettre. Je le trouvais toujours admirable et nous ne nous en écartions plus. De cette manière, l'ennui qui poursuit toujours les solitaires et jusqu'aux amants dans leur tête-à-tête n'approchait jamais de nous. Léonie savait tout ce qu'il fallait éviter, tout ce qu'il fallait observer pour maintenir la paix de l'âme et le bien-être du corps. Il me le dictait avec sa tendresse adorable, et soumise à lui comme l'esclave à son maître, je ne contrariais jamais un seul de ses désirs. Ainsi, il disait que l'échange des pensées entre deux êtres qui s'aiment est la plus douce des choses, mais qu'elle peut devenir la pire de toutes si on en abuse. Il avait donc réglé les heures et les lieux de nos entretiens. Tout le jour, nous étions occupés à travailler. Je prenais soin du ménage, je lui préparais des friandises ou je plissais moi-même son linge. Il était extrêmement sensible à ces petites recherches de luxe et les trouvait doublement précieuses au fond de notre ermitage. De son côté, il pourvoyait à tous nos besoins et remédiait à toutes les incommodités de notre isolement. Il savait un peu de tous les métiers, alors il faisait des meubles en menuiserie, il posait des serrures, il établissait des cloisons en châssis et en papier peint, il empêchait une cheminée de fumer, il greffait un arbre à fruits, il amenait un courant d'eau vive autour de la maison. Il était toujours occupé de quelque chose d'utile et il l'exécutait toujours bien. Quand ces travaux-là lui manquaient, oh, il peignait l'aquarelle, composait de charmants paysages avec les croquis que, dans nos promenades, nous avions pris sur nos albums. Quelquefois, il parcourait seul la vallée en composant des vers, et il revenait vite me les dire. Il me trouvait souvent dans l'étable avec mon tablier plein d'herbes aromatiques dont les chèvres sont friandes. Mes deux belles protégées mangeaient sur mes genoux. L'une était blanche et sans tache, elle s'appelait Neige. Elle avait l'air doux et mélancolique. L'autre était jaune comme un chamois, avec la barbe et les jambes noires. Elle était toute jeune, sa physionomie était mutine et sauvage. Nous l'appelions Den. La vache appelait Pâquerette. Elle était rousse et rayée de noir transversalement comme un tigre. Elle passait sa tête sur mon épaule, et quand Léonie me trouvait ainsi, il m'appelait sa vierge à la crèche. Il me jetait mon album et me dictait ses vers, qui m'étaient presque toujours adressés. C'étaient des hymnes d'amour et de bonheur qui me semblaient sublimes et qui devaient l'être. Je pleurais sans rien dire en les écrivant. Et quand j'avais fini, eh bien, me disait Léonie, tu les trouves mauvais? Je relevais vers lui mon visage baigné de larmes. Il riait et m'embrassait avec transport. Et puis, il s'asseyait sur le fourrage embaumé et me lisait des poésies étrangères, qu'il me traduisait avec une rapidité et une précision inconcevables. Pendant ce temps, je filais du lin dans le demi-jour de l'étable. Il faut savoir quelle est la propreté exquise des étables suisses pour comprendre que nous eussions choisi la nôtre pour salon. Elle était traversée par un rapide ruisseau d'eau de roche qui la balayait à chaque instant et qui nous réjouissait de son petit bruit. Des pigeons familiers y buvaient à nos pieds, et sous la petite arcade par laquelle l'eau rentrait, des moineaux hardis venaient se baigner et dérober quelques graines. C'était l'endroit le plus frais dans les jours chauds, quand toutes les lucarnes étaient ouvertes, et le plus chaud dans les jours froids, quand les moindres fentes étaient tamponnées de paille et de bruyère. Souvent, Léonie, fatiguée de lire, s'y endormait sur l'herbe fraîchement coupée, et je quittais mon ouvrage pour contempler ce beau visage que la sérénité du sommeil ennoblissait encore. Durant ces journées si remplies, nous nous parlions peu, quoique presque toujours ensemble. Nous échangions quelques douces paroles, quelques douces caresses, et nous nous encouragions mutuellement à notre œuvre. Mais quand venait le soir, Léonie devenait indolent de corps et actif d'esprit. C'étaient les heures où il était le plus aimable, et il les avait réservées aux épanchements de notre tendresse. Doucement fatigué de sa journée, il se couchait sur la mousse à mes pieds, dans un endroit délicieux qui était auprès de la maison, sur le versant de la montagne. De là, nous contemplions le splendide coucher du soleil, le déclin mélancolique du jour, l'arrivée grave et solennelle de la nuit. Nous savions le moment du lever de toutes les étoiles, et sur quelle cime chacune d'elles devait commencer à briller à son tour. Et Léonie connaissait parfaitement l'astronomie, mais Johann possédait à sa manière cette science des pâtres, et il donnait aux astres d'autres noms, souvent plus poétiques et plus expressifs que les nôtres. Quand Léonie s'était amusée de son pédantisme rustique, il l'envoyait jouer sur son pipeau leur lance des vaches au bas de la montagne. Ses sons aigus avaient de loin une douceur inconcevable. Léonie tombait dans une rêverie qui ressemblait à l'extase. Puis, quand la nuit était tout à fait venue, quand le silence de la vallée n'était plus troublé que par le cri plaintif de quelque oiseau des rochers, quand les lucioles s'allumaient dans l'herbe autour de nous et qu'un vent tiède planait dans les sapins au-dessus de nos têtes, Léonie semblait sortir d'un rêve ou s'éveiller à une autre vie. Son âme s'embrasait, son éloquence passionnée m'inondait le cœur. Il parlait aux cieux, aux vents, aux échos, à toute la nature, avec enthousiasme. Il me prenait dans ses bras et m'accablait de caresses délirantes. Puis il pleurait d'amour sur mon sein. Et redevenu plus calme, il m'adressait les paroles les plus suaves et les plus enivrantes. Oh, mais comment ne l'aurais-je pas aimé, cet homme sans égal, dans ses bons et dans ses mauvais jours? Qu'il était aimable alors, qu'il était beau, comme le hâle allait bien son mâle visage et respectait son large front blanc sur des sourcils de jais. Comme il savait aimer, comme il savait le dire, comme il savait commander à la vie et la rendre belle. Mais comment n'aurais-je pas pris en lui une confiance aveugle? Comment ne me serais-je pas habitué à une soumission illimitée? Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait était bien, beau et bon. Il était généreux, sensible, délicat, héroïque. Il prenait plaisir à soulager la misère ou les infirmités des pauvres qui venaient frapper à notre porte. Un jour, il se précipita dans un torrent au risque de sa vie pour sauver un jeune pâtre. Une nuit, il erra dans les neiges au milieu des plus affreux dangers pour secourir des voyageurs égarés qui avaient fait entendre des cris de détresse. Mais oh, comment me serais-je méfié de Léonie? Comment aurais-je fait pour craindre l'avenir? Ne me dites plus que je fus crédule et faible. La plus virile des femmes eût été subjuguée à jamais par ces 6 mois de son amour. Quant à moi, je le fus entièrement, et le remords cruel d'avoir abandonné mes parents, l'idée de leur douleur, s'affaiblit peu à peu et finit presque par s'effacer. Oh, mais quelle était grande la puissance de cet homme! Juliette s'arrêta et tomba dans une triste rêverie. Une horloge lointaine sonna minuit. Je lui proposai d'aller se reposer. « Non, dit-elle, si vous n'êtes pas là de m'entendre, je veux parler encore. » Je sens que j'ai entrepris une tâche bien pénible pour ma pauvre âme, et que quand j'aurai fini, je ne sentirai plus rien. Je ne me souviendrai plus de rien pendant plusieurs jours. Je veux profiter de la force que j'ai aujourd'hui. Oui, Juliette, tu as raison, lui dis-je. Arrache le fer de ton sein, tu seras mieux après. Mais dis-moi, ma pauvre enfant, comment la singulière conduite d'Henriette au bal et la lâche soumission de Léonie à un regard de cet homme n'avaient-elles pas laissé dans l'esprit un doute, une crainte? Mais quelle crainte pouvais-je conserver? Répondit Juliette. J'étais si peu instruite des choses de la vie et des turpitudes de la société que je ne comprenais rien à ce mystère. Léonie m'avait dit qu'il avait un secret terrible. Bon, j'imaginais 1000 infortunes romanesques. C'était la mode alors en littérature de faire agir et parler des personnages frappés des malédictions les plus étranges et les plus invraisemblables. Les théâtres et les romans ne produisent plus que des filles de bourreaux, des espions héroïques, des assassins et des forçats vertueux. Je lus un jour Frédéric Stendhal, une autre fois l'espion de Scooper me tomba sous la main. Mais songez que j'étais bien enfant et que dans ma passion, mon esprit était bien en arrière de mon cœur. Je m'imaginais que la société, injuste et stupide, avait frappé Léonie de réprobation pour quelque imprudence sublime, pour quelque faute involontaire ou par suite de quelque féroce préjugé. Je vous avouerai même que ma pauvre tête de jeune fille trouva un attrait de plus dans ce mystère impénétrable, et que mon âme de femme s'exalta devant l'occasion de risquer sa destinée entière pour soulager une belle et poétique infortune. Et Léonie dut s'apercevoir de cette disposition romanesque et l'exploiter, dis-je à Juliette. Oui, me répondit-elle, il le fit. Mais s'il se donna tant de peine pour me tromper, c'est qu'il m'aimait, c'est qu'il voulait mon amour à tout prix. Nous gardâmes un instant le silence, et Juliette reprit son récit.